Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, quand l'art se met au service du pouvoir, une série d'Élise Gruau réalisée par Julie Béressy. Au départ de cette série, il y a des princes, des courtisans, des luttes de pouvoir, des rivalités et le désir d'accumuler le luxe et la beauté. Il y a l'image que l'on se fait de ce peintre appliqué à faire le portrait de celui qui le nourrit. Il en trace une image flatteuse, il le grandit, l'embellit ou le rajeunit. Il y a aussi les mille vies de Léonard de Vinci, courtisan, peintre, inventeur, ingénieur militaire, décorateur et ambianceur tendance jeu de mots et papier crépon. Et il y a bien sûr les grandes galeries du château de Versailles où le décor peint, la débauche de luxe et le torrent d'allégories créent la puissance autant qu'il la proclame. Mais parfois, ce sont les artistes aussi qui mènent la danse. Alors pour commencer, les personnages. Le peintre, un roi de guerre, des courtisans, Charles Quint et le Titien, des artistes pensionnés, le Tintoret et Michel-Ange, des diplomates et des historiens. Ensuite le décor, un monument funéraire, une pierre tombale, la ville d'Anvers, du velours noir, des rêves de grandeur, 1400 œuvres, un portrait équestre, des tapisseries, la ville de Gênes, Rome et Bruxelles, le clair-obscur et la descente de croix. Aujourd'hui, troisième épisode, on se souvient d'un enterrement.
Petrus Paulus Rubenius Eques, Ioannis Huius Urbis Senatoris Filius, Staini Toparcha, qui inter setras quibus ad miraculum excelvit doctrine historiae prisque omnium qui bonarum artiu et elegantiarum, dotes, non sui tantum seculi, sed et omnis eu. Appelles dihi meruit, atque ad regum principumque virorum amicitias gradum sivi fecit. Sur le sol, on peut lire l'épitaphe et on peut y lire que Rubens était un chevalier, qu'il était le fils d'un sénateur de la ville, Jean Rubens, et qu'il était tellement doué avec sa connaissance de l'histoire, avec sa capacité comme peintre, qu'il a brillé de façon miraculeuse, vraiment. Et que pour cette raison-là, on lui appelait l'appel de son époque et de tous les siècles. Apelles était un peintre de l'Antiquité qui a été nommé par Pliny. Et Apelles était le peintre d'Alexandre le Grand, comme Rubens était le peintre de cour des grands de son époque. Alors, être nommé Apelles, ça veut dire qu'on a tout achevé ce qui est possible dans son métier de peintre. Alors, c'est un très grand compliment. Et ce qui est très important, et qu'il est marqué ici non seulement comme peintre, mais aussi comme diplomate. Alors l'épitaphe nous raconte qu'il était envoyé par Philippe IV de l'Espagne vers Angleterre pour établir la paix entre la France et l'Espagne. Alors je crois que Rubens lui-même a vu ça comme une de ses plus importantes réalisations.
Rubens, peintre des princes, prince des peintres. Élise Gruau, Julie Béressy.
Nous sommes face à la chapelle funéraire de Rubens, qui se trouve vraiment dans la place d'honneur de l'église Saint-Jacques, dans le cœur de l'église. C'est une chapelle vraiment importante. Rubens avait un peu un caractère plein de fausse modestie. Alors quelques jours avant son trépas, il avait demandé à ses membres de famille s'il lui trouvait digne d'avoir une chapelle funéraire comme ça. Mais il s'était très bien conscient qu'il était important, qu'il était un artiste sans pareil. Alors il savait ce qui allait se passer. Alors déjà devant qu'il était mort, il s'était très conscient qu'il se faisait une sorte d'image ici pour l'éternité.
Comment se sont déroulées les funérailles de Rubens ?
Il y avait une foule énorme de l'aristocratie locale, de tous ses assistants, des guildes. C'était vraiment un grand événement. Les velours noirs qui étaient drapés partout dans l'église, les flambeaux, c'était vraiment un événement. rituel presque de l'aristocratie. Il avait deux titres déjà à ce moment-là, alors ça n'était pas une funéraille de peintre quotidien, pas du tout. Il y a des descriptions qui disent qu'il y avait une grande foule et qu'il y avait des gens partout sur le trajet et qu'il y avait une énorme foule de citoyens qui étaient venus pour dire adieu au peintre. C'était le fils le plus important de la ville, c'était le cœur vraiment de la ville. La location de cette chapelle ici indique déjà sa position centrale pour l'image qu'Anvers avait de soi-même. Il était diplomate, il était européen avant la lettre, il était écrivain, il était chercheur, il était historien, il était un tas de choses vraiment que tous les citoyens d'Anvers voulaient s'identifier avec lui. Après tout ce qui s'était passé au fin du XVIe siècle, Rubens était une sorte de réveil artistique et intellectuel pour Anvers.
Au XVIe siècle, Anvers était un des phares de l'Europe. Une des villes les plus riches par son réseau bancaire, son port sur l'Escaut et son activité intellectuelle. Mais en 1555, lorsque Charles Quint entreprend le partage de l'immense Saint-Empire romain germanique, Anvers et les 17 provinces des Pays-Bas passent sous la domination espagnole de son fils, le très catholique roi Philippe II. C'est la fin d'une époque de tolérance à Anvers. Bientôt, les guerres civiles divisent la région et amorce le déclin de la ville, dont Rubens, né en 1577, aura à cœur toute sa vie de restaurer la grandeur. Lorsqu'un nom de peintre rassemble plus de 1400 œuvres, qu'un style, le baroque, lui est associé et qu'il s'est imposé à toute l'Europe, les notions d'art et de pouvoir vacillent. L'œuvre de Rubens est si vaste qu'il faut parcourir les musées du monde entier pour en recomposer les facettes. Et se demander qui de l'artiste ou de ses puissants commanditaires détient le pouvoir d'écrire l'histoire.
Monsieur, il y a un siècle, me semble-t-il, que je n'ai reçu de vous aucune nouvelle. Toute notre correspondance a été interrompue par un voyage en Espagne que la sérénissime infante m'a ordonné de faire avec tant de mystère et de célérité qu'elle ne m'a pas permis de voir un seul ami résident à Paris. Je m'occupe ici à peindre, comme je le fais partout. Et j'ai déjà exécuté le portrait équestre de Sa Majesté le Roi, qu'il a bien goûté et on a été très satisfait. Il semble vraiment prendre un plaisir extrême à la peinture, et à mon jugement, ce prince est doué des plus belles qualités. Je le connais déjà pour m'être entretenu avec lui. Comme j'ai un appartement dans le palais, il vient me voir à peu près tous les jours.
Au cours de son séjour à la cour d'Espagne, à l'automne 1628, le roi souhaite que Rubens réalise son portrait équestre. Évidemment, il n'est pas question de refuser, hein, dans ces cas-là, on s'exécute.
Alexis Merle-Dubourg, historien de l'art.
On met tout à disposition pour que Rubens réalise ce portrait, donc l'armurerie royale est requise, puisqu'il s'agit d'un portrait du roi, vous voyez qu'il est, il est cuirassé, hein, et c'est un roi de guerre. On a un portrait qui est de grand comme nature, et Rubens se met rapidement au travail avec sa célérité habituelle. Avant décembre, avant début décembre, ce portrait est achevé. On le sait parce qu'il l'écrit à un de ses correspondants, qui est un de ses bons amis français, qui est Peiresque. Et il annonce qu'il peint comme partout ailleurs, j'aime beaucoup ce « comme partout ailleurs », comme si c'était absolument naturel de faire ce genre de tableau, et que le roi en a été satisfait.
J'ai fait aussi les portraits de toute la famille royale, exactement et avec toute facilité en leur présence, pour le service de la sérénissime infante, ma souveraine. Celle-ci m'a donné la permission de prendre par l'Italie pour revenir et j'espère, s'il plaît à Dieu, profiter de l'occasion du passage de la reine de Hongrie, de Barcelone à Gênes, qui aura lieu à la fin de mars prochain. Je finis en vous baisant les mains du meilleur de mon cœur et vous prie de me conserver dans vos bonnes grâces. Je suis monsieur, votre très dévoué serviteur, Pierre-Paul Rubens, de Madrid, le 2 décembre 1628.
Malheureusement, le tableau original a été détruit dans un incendie au XVIIIe siècle. À coup sûr, on en est presque sûr, l'incendie de l'Alcázar, qui était donc un des grands palais royaux madrilènes. Et le tableau a péri, comme beaucoup d'œuvres d'art, hélas, en 1734. Alors, il se trouve qu'on peut le connaître, heureusement, grâce à cette copie qui vient de Florence. Et la copie est intéressante parce qu'on la soupçonne partiellement d'avoir été exécutée par Velázquez. ce qui n'est quand même pas mal. Et de fait, le tableau est très vélasquezien. On se situe entre Rubens et Velázquez. Et quelle image on a du roi ? C'est l'image de la toute-puissance. En fait, on a un roi guerrier qui a le bâton de commandement en main, qui est environné de figures allégoriques. On a une figure qui tient la foudre. La foudre, c'est l'arme de Jupiter. Hein. Comme vous savez, c'est le dieu des dieux. Donc c'est vraiment un des signes de la toute-puissance. Et là, on a un roi avec la foi, la justice divine. On a le roi qui gouverne un empire parce que le personnage qui lui apporte son home, c'est un Indien, donc ça fait référence à la domination des Indes par l'Espagne. Et puis si on regarde dans le coin, dans inférieur, il y a un serpent. Et le serpent, c'est le serpent de l'hérésie. Donc là, vous avez le roi chef de la catholicité, dont le cheval piétine le serpent de l'hérésie, et qui a tout cet appareil allégorique au-dessus de sa tête, qui dit en substance qu'il a vocation à gouverner le monde. Ce qu'on nous donne à voir ici comme image de la monarchie, c'est ce qu'on appelle la monarchie universelle. Et précisément, les Habsbourg prétendaient à incarner cette monarchie universelle.
Il y a les princes par le sang qui exercent le pouvoir temporel. Il y a les princes aussi qui exercent le pouvoir religieux, les papes, les évêques. Et puis, il y a les princes par le talent qui sont indispensables aux premiers, qui sont les princes par le pinceau.
Nadège Lanéry-Dagen, historienne de l'art.
Et Michel-Ange est aussi indispensable au pape de Rome, aux papes successifs de Rome pour lesquels il a fait la voûte de la Sixtine et le jugement dernier, que les papes sont indispensables à Michel-Ange pour lui donner des commandes. Et il en va de même, évidemment, pour Titien par rapport à Charles Quint. Titien a besoin de Charles Quint pour avoir des commandes. Charles Quint a besoin de Titien pour donner de lui une image remarquable. Un peu après Rubens pour Velázquez et Philippe IV. Et évidemment pour Rubens avec ses patrons, qui ne sont pas toujours des rois, mais qui sont quelquefois des rois ou de très grands princes successifs.
Rubens est un peintre de cour. Un peintre de cour, c'est assez simple, c'est un peintre qui est attaché au service d'une cour princière. Plusieurs emplois possibles pour un peintre de cour, hein, représenter le prince et sa famille, pourvoir en tableau religieux ses lieux de culte, les endroits où il prie, chapelle, église, bon, décorer la demeure du prince, produire éventuellement des cartons pour ses objets de grand luxe que sont les tapisseries. Je vous dis tout ça parce que Rubens fait tout ça, hein. De fait, il est extrêmement polyvalent dans son emploi. Maintenant, quel bénéfice il en retire? Pourquoi est-ce que ce poste est aussi prisé? D'abord parce qu'il assure des revenus. Être peintre de cour, c'est être pensionné. Deuxième point, c'est extrêmement prestigieux, évidemment. L'emploi honore celui qui en bénéficie. Alors voilà, Rubens est fondamentalement un peintre de cour, mais Rubens dépasse de beaucoup cette condition déjà prestigieuse de peintre de cour. Je dirais en somme qu'il n'est pas peintre de cour, il est peintre des cours. Il est peintre de cour superlatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas peintre d'une cour, il est peintre de toutes les cours, en servant de manière quasiment exhaustive, tous les grands souverains de son temps. Et c'est là où on commence à être face à un personnage qui est absolument sans équivalent.
Je pense que le secret de Rubens, le secret de son succès auprès des cours européennes, cours flamandes, les gouverneurs, les archiducs d'Autriche qui gouvernent alors les Pays-Bas, cours de Mantoue, cours d'Espagne, cours d'Angleterre, son succès tient au fait qu'il connaît parfaitement les codes de la cour. Rubens vient d'un milieu aisé. Son père avait une tâche d'homme de droit, et d'homme de droit auprès lui-même d'un prince qui était le statuaire de Hollande. Donc il connaît par son éducation ces codes de la cour, et il les connaît d'autant mieux que sa mère a voulu qu'il fût page auprès d'une grande dame. Il a détesté cette fonction, mais vers 15 ans, il est page pendant un an, de nouveau dans une plus petite cour. Donc il sait comment on se comporte à la cour, et il joue le rôle du peintre courtisan, c'est-à-dire de l'homme de cour. Ce qui a un sens extrêmement noble à cette époque. Être un homme de cour, c'est être un gentilhomme, c'est être un noble homme. Il se forge cette idée, notamment en Italie, et l'Italie est, au XVIe siècle, la terre qui a inventé, avec un homme qui s'appelle Baltasar Castiglione, l'idée même de il cortigiano, le courtisan en tant que noblesse d'un certain comportement de gentilhomme fidèle et non pas traître à son prince.
Dans sa jeunesse, il était destiné à être politicien ou à être marchand ou quelque chose comme ça.
Nico van Hout, conservateur du département des peintures du XVIIe siècle au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers.
Et son père, par exemple, il a voulu un futur, une carrière d'ambition pour son fils. Mais très tôt dans sa vie, Rubens, il avait compris que c'était pas une vie pour lui. Donc Rubens a commencé à peindre juste avant 1600, c'est-à-dire assez tard dans sa vie. Il est né en 1577. Et puis donc, on ne pouvait pas tellement bien combiner la profession de peintre et une carrière politique. Ça ne se faisait pas. Un peintre était quand même quelqu'un qui utilisait les mains. L'aristocratie n'a jamais voulu faire cela. Donc c'était un peu incompatible. Donc pour sa famille, ça devait avoir été un choc un peu. Bien que aussi à Anvers, il faut dire que les peintres étaient en vue. Donc les peintres étaient parmi les plus riches habitants d'Anvers. Donc ce n'était pas une question de pauvreté, mais c'était une question de statut. Pour lui, c'était un choix de cœur. Et puis, quand il a fait sa choix de devenir peintre, il a donc commencé auprès d'Adam van Noort et d'Otto van Veen avant 1600. Et c'est aussi la période où on date ses premières œuvres, donc des œuvres datant d'avant son voyage en Italie.
Quel rôle joue l'Italie dans la carrière de Rubens ?
Rôle fondateur, évidemment. Rubens est un peintre extrêmement italianisé. Il signe, avec une signature qui est italienne, un Pietro Paolo Rubens, qui est surprenant pour un flamand, et c'est sa signature habituelle. Par ailleurs, les artistes du temps, notamment ceux du Nord, il y a une sorte de flux continu d'artistes hollandais et flamands vers l'Italie. L'Italie, c'est un musée à ciel ouvert, c'est une école. Et le long séjour de Rubens en Italie, donc 1600-1608, quasiment 10 ans, hein, il en gardera une culture visuelle qui est extrêmement étendue. C'est un peintre qui maîtrise une pluralité de modèles et par ailleurs une sorte de connaissance comme ça exhaustive des grands précédents de l'art, notamment les grands précédents italiens du XVIe siècle avec lesquels se mesurer.
Son style va être bouleversé en Italie quand il est en contact avec l'atelier du Tintoret à Venise, par exemple, quand il verra les dessins de Giulio Romano en Mantoue, quand il verra des dessins de Léonard de Vinci, de Michel-Ange. Enfin, tout cela va changer son style. Et Rubens gagne sa vie en Italie comme il est peintre de cour pour les Gonzagues. Aussi, il va peindre des portraits de l'aristocratie génoise. Donc les Pallavicini, les Balbi, ce sont les richissimes filles de bancaires qu'il va peindre, hein, peindre des portraits magnifiques. Vous vous souvenez le portrait splendide de Brigida Spinola Doria à Washington, qui est vraiment une vedette hollywoodienne du XVIIe siècle, là, c'est incroyable. Donc ces richissimes bancaires font commander les portraits et ça va bien se payer. Hein.
En Italie, et comme il le fera partout ailleurs, Rubens peint et il étudie aussi les œuvres des grands artistes qui l'ont précédé, se créant un immense répertoire de formes et de compositions. À Rome, il réalise ses premiers chefs-d'œuvre, notamment pour la Chiesa Nuova. En 1608, apprenant que sa mère est malade, Rubens décide de quitter l'Italie pour la rejoindre à Anvers, mais elle meurt avant qu'il n'arrive. Son retour coïncide avec une période de prospérité dans la ville grâce à la signature d'une paix entre l'Espagne et les Provinces-Unies qui ouvre à une période de trêve de 12 ans propice à l'installation du peintre dans son nouveau statut de peintre de cour.
Patente des archiducs Albert et Isabelle nommant Rubens peintre de leur hôtel. Albert et Isabelle Clara Eugenia, infante d'Espagne par la grâce de Dieu, archiduc d'Autriche, À tous ceux qui s'y présentent verront, salut. Savoir faisons que pour le bon rapport que fait nous a été de la personne de Pierre-Paul Rubens et de ses sens et grandes expériences, tant en fait de peinture que de plusieurs autres arts, nous confiant à plein de ses loyautés et bonnes diligences, avons eu celui Pierre-Paul Rubens retenu, commis, ordonné et établi par ses présentes à l'office de peintre de notre hôtel, pour dorénavant tenir, exercer et desservir, et au surplus faire bien et dignement toutes et singulières les choses que bon et loyal peintre peut et doit faire, au gage et traitement de 500 livres du prix de 40 gros de notre monnaie de Flandre, la livre par an. Bruxelles, 23 septembre 1609.
À partir de 1609, il est peintre de cour des archiducs. Les archiducs, c'est Albert d'Autriche, que j'ai devant moi, en plusieurs exemplaires d'ailleurs, et son épouse qui est l'infante Isabelle Claire Eugénie. Et la cour des archiducs est à Bruxelles. Et première anomalie, Rubens ne réside pas à Bruxelles. Donc c'est un peintre de cour qui n'est pas résident. Ce qui est tout à fait étonnant, enfin, il réside à Anvers. C'est une cité marchande extrêmement importante, mais ça n'est pas qu'une cité marchande, c'est une cité érudite aussi, c'est une cité de libraires, d'imprimeurs, de grands savants. Et donc il vit à Anvers dans un état d'autonomie relative par rapport à la cour qui est à Bruxelles.
Il est probable que ce statut exceptionnel, totalement libre, il l'a obtenu en partie grâce aux circonstances. Les circonstances, c'est le fait qu'il y a eu à Anvers, dans les Pays-Bas, où il revient en 1609, peintre formé, peintre déjà connu en Italie. En 1609, les Pays-Bas flamands, les Pays-Bas du Sud, sortent d'une crise terrible de peinture, qui est l'iconoclasme de la fin du XVIe siècle, qui est le résultat de la crise protestante. Et grosso modo, il arrive dans une ville désertée d'œuvres. Les peintures, les sculptures, les vitraux ont été brisés, les tapisseries ont été brûlées ou déchirées, et toute une génération de peintres s'est demandé s'ils pourraient continuer à peindre et où ils pourraient continuer à peindre, puisqu'on brisait les œuvres à cette époque-là. Et donc, Anvers manque terriblement de peintres et de peintres de talent. En quelque sorte, Rubens peut poser ses conditions à l'archiduc.
Ce qu'on appelle la crise iconoclaste, c'est les protestants qui sont entrés dans les églises en Flandre et qui ont cassé les sculptures, les peintures et toute la décoration et les images dans les églises.
Bert Vatheu, historien et chercheur au Rubenianum, centre d'études sur Rubens à Anvers.
Les protestants considéraient que les catholiques idolâtraient les images eux-mêmes, alors qu'ils ne pensaient plus à ce qui était montré sur les images, mais qu'ils prenaient les images eux-mêmes pour Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont attaqué ces images et les ont cassées.
Et donc, dans Anvers, beaucoup d'églises ont été touchées par cette crise iconoclaste ?
Oui, tous, presque toutes les églises. Et ça a créé en fait une opportunité pour les artistes du XVIIe siècle, car avec le réveil catholique, il y avait besoin de redécorer les églises. Et Rubens était là exactement pour remplir ces trous dans le patrimoine des églises.
Et là, il faut dire donc que Rubens était the right man on the right place, donc le juste homme au juste moment. Donc là, il y avait beaucoup, beaucoup de possibilités à produire des tableaux d'autel pour les églises existantes. À partir de 1609-1610, quand il produisit donc les premiers grands tableaux d'autel ici à Anvers, ça a été un succès fou, quoi. Et après cela, chaque guilde ici à Anvers ou chaque ordre religieux voulait des tableaux d'autel de lui. Et tout cela était évidemment soutenu par le régime des archiducs Albert et Isabelle, qui voulaient donc reconvertir la Flandre protestante dans un pays catholique profond. Donc la récatholicisation de la Flandre est un peu le travail de Rubens aussi, hein.
Où est-ce qu'on est ici?
On est dans la cathédrale Notre-Dame à Anvers, dans le cœur de la ville. C'est une cathédrale fortement gothique, style gothique brabançonne.
Est-ce que cette église avait été beaucoup endommagée pendant la crise iconoclaste?
L'intérieur était endommagé, les peintures aussi, mais il y en a quelques-uns qui ont été sauvés et beaucoup d'autres qui ont été remplacés. Il y a 4 chefs-d'œuvre de Rubens, 2 qui sont connus partout dans le monde, l'érection de la croix et la descente de la croix. Et comme vous voyez ici, au milieu, dans le cœur de l'église, vraiment central, dans le nef, c'est le maître-autel de l'église, c'est l'Ascension de la Vierge par Rubens. Et une autre œuvre, la résurrection de Christ, aussi de Rubens. Devant l'érection de la croix de Rubens, la première œuvre qu'il achève pour une église anversoise après son retour d'Italie. Et ici, on voit immédiatement qu'il y a un nouvel langage, un nouveau style, la composition diagonale, le clair-obscur, les musculatures prononcées. C'est vraiment une peinture de la drame, le mouvement. C'est fait pour convaincre les gens de la souffrance de Christ. Et c'est fortement différent du style des peintres flamands avant Rubens. On trouve une atmosphère un peu silence, un peu contemplatif. Ici, le but est vraiment de bouleverser les gens, de les confronter viscéralement avec la souffrance du Christ. Et comme le croix est érigé, on a presque l'impression que le Christ va entrer dans l'espace de l'Église. Il y a cet effet d'illusion, vraiment, d'entrer dans notre vie. De l'autre côté du transept, on retrouve la descente de la croix. Rubens a commencé cette œuvre un an après l'érection de la croix. De nouveau, il y a cette composition diagonale avec les bras du Christ descendu du croix qui vont définir le mouvement de la composition.
Alors, la descente de croix, elle est traitée par Rubens avec une expression qui est presque violente quand on la regarde. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer l'impact que ça avait à l'époque?
Ça a dû donner vraiment des fortes émotions aux gens. Ils n'avaient pas l'habitude de voir des images en général. Il y avait peut-être quelques petites peintures dans leur maison ou une gravure en noir et blanc, mais une image d'une telle échelle avec un sujet comme ça, ça a dû vraiment avoir un impact sur les gens. Même aujourd'hui, ça nous touche quand même.
Rubens a une très grande chance. Il arrive à un moment de... Ce n'est pas une chance pour l'Europe, c'est une chance pour lui et sa carrière, de durcissement terrible entre les partis religieux, j'ai presque envie de dire entre les sectes religieuses, dans l'Europe de l'après-réforme. Il arrive après le concile de Trente, qui malgré le mot Trente, c'est la ville où il a eu lieu, s'est terminé à la fin des années 1560, c'est-à-dire au moment où naît, grosso modo, Pierre-Paul Rubens. Or, en Europe, se sont cristallisées deux positions. Une position qui correspond à l'Europe calviniste, protestante dure du point de vue du rapport aux images, où il n'y a pas de peinture religieuse et où le portrait n'est pas interdit, mais ce sont des images d'austérité, de sérieux, qui dans le portrait sont favorisées. Et puis il y a un autre parti en Europe, qui est le parti catholique, qui, après quelques hésitations, décide que oui, l'image est légitime, oui, il faut la faire autrement qu'au Moyen-Âge. Oui, c'est par elle qu'on réussira à capter les âmes, les cœurs, et à les ramener au catholicisme. Et les capter, c'est par d'énormes images. Et les premiers triptyques, les premiers polyptyques que Rubens accomplit, exécute, ils sont énormes, ils sont gigantesques. Et il faut comprendre que quand on rentre alors dans la nef d'une église... Ces églises qui, pour toute une génération, ont été privées d'images, on est happé par l'énormité de ces figures de toutes sortes, qui disent la souffrance du Christ, mais qui disent aussi, en quelque sorte, l'amour, les pleurs de belles femmes éplorées, la force physique des gens qui soulèvent la croix, et il faut beaucoup d'efforts. Donc chacun y trouve, au fond, le portefeuille, y trouve un personnage sur lequel porter son empathie, la femme y trouve une figure de projection, et celui qui souffre trouve aussi une figure sur laquelle porter son imaginaire. Et cela, ce sont des images de pouvoir, puisque le pouvoir, alors, à ce moment-là, confié aux archiducs Albert et Isabelle, Ce pouvoir-là, il a une condition qui est récupérer la population au catholicisme.
Et les grands ordres religieux, comme les jésuites, mais aussi les capucins, ont fait des commandes gigantesques, notamment pour le nord de la France, qui, dans ce temps-là, était encore, qui faisait encore partie des Pays-Bas espagnols, mais donc pour des villes comme Lille, Valenciennes, Saint-Omer, Arras, pour toutes ces villes, les ordres, comme des capuchins, avaient construit de nouveaux bâtiments, de nouveaux églises, qui devaient tous être décorés. Et en 1617, par exemple, Rubens avait reçu ces commandes magnifiques et gigantesques pour des dizaines et des dizaines de tableaux d'autel. Et c'est évidemment dans cette année-là que son atelier prend un essor, un grand essor, quoi. Il y a quelques années, j'ai fait un peu de calcul et j'ai calculé que dans les années 1617 à 1620, au moins un grand terrain de football d'un grand stade, comme le Stade de France par exemple, on pourrait vraiment remplir le stade avec des tableaux de Rubens. Donc c'est seulement de surface, c'est gigantesque. Donc là aussi, on ne peut pas imaginer qu'il a peint tout ça dans le Rubenshaus, dans la maison de Rubens et le musée actuel, sa maison où, selon la tradition, il a peint tout. Non, c'est impossible. Donc il y aurait dû nombre d'ateliers qui dépendaient de lui pour gérer tout cela. Le talent artistique chez lui était aussi lié à un talent d'organisateur. Je connais guère d'artiste qui a mieux su utiliser le temps.
Votre très aimable lettre de 8 courants m'est arrivée hier soir. Elle m'apprend que votre Excellence a partiellement changé d'idée en ne voulant avoir des tableaux que pour une moitié du prix de ses marbres et que pour l'autre moitié, elle veut avoir des tapisseries ou des écus comptants. Ce changement paraît provenir de ce que ma liste manquait d'originaux. Cependant, votre Excellence ne doit point se figurer que les autres sont de simples copies, tandis qu'ils sont si bien retouchés de ma main qu'on les distinguerait difficilement des originaux. Et malgré cela, ils sont taxés à un prix très inférieur. La cause pour laquelle j'aimerais mieux traiter au moyen de mes peintures est évidente. En vérité, elle ne me coûte rien. En outre, j'ai dépensé cette année quelques milliers de florins dans mes bâtiments et je ne voudrais point, pour une fantaisie, dépasser les bornes d'une sage économie. Au fait, je ne suis pas un prince, mais quelqu'un qui vit du travail de ses mains. J'espère que votre Excellence agréera cet arrangement qui me paraît très raisonnable. D'Anvers, le 12 mai 1618.
On est sur le cours de la maison Rubens à Anvers, en Belgique. Et c'est vraiment un palais de ville. À gauche, il y a une aile flamande dans le style traditionnel du XVIe siècle. Et à droite, il y a une aile bâtie par Rubens, d'après ses dessins, dans le style italien, très baroque, très décoré, où l'atelier de l'artiste se trouvait. Et connectant les deux, il y a un portique en style baroque, qui est l'exemple le plus important de l'architecture séculaire baroque dans les Pays-Bas. Et on peut voir vraiment un axe visuel qui nous guide vers un pavillon de jardin avec une sculpture d'Hercule qui était le héros de Rubens. Alors cet axe impose une symétrie sur cette maison qui l'élève en dehors du niveau bourgeois, vraiment sur le plan d'un palais aristocratique.
Jusqu'à combien de personnes il pouvait y avoir ici ?
Au fin de la vie de Rubens, il y avait 7 enfants, 2 du premier mariage, 4 du deuxième mariage. Il y avait les élèves dans l'atelier, il y avait des visiteurs, c'était une attraction, une pôle d'attraction pour les visiteurs d'Anvers. Il y avait 8 domestiques, alors ça a dû vraiment fonctionner, non pas comme une famille, mais vraiment comme un cours. Il avait amassé une fortune énorme, il avait acheté beaucoup d'immobilier à Anvers, un château en dehors de la ville. Et il était un des citoyens les plus riches de la ville d'Anvers, et presque des Pays-Bas. On va vers l'atelier du peintre.
On est entré ici dans une pièce gigantesque qui réunit deux étages de la maison. Alors c'est ici que Rubens travaillait ?
Oui. Oui, c'est l'atelier de Rubens et la grandeur de la pièce était importante car c'est ici qu'il faisait toutes ses commissions pour les cours européennes, pour envoyer à Madrid, pour envoyer à Londres, à Paris. Alors l'échelle de cette pièce est vraiment utilitaire, c'est pas pour impressionner les gens, c'était nécessaire. Et en dessous de cette pièce, il y a un autre atelier, l'atelier des élèves, et il y avait même un système pour tirer les toiles sur le deuxième étage. Alors c'était vraiment une usine à peindre ici. Il y avait un tas de collaborateurs, des élèves qui étaient toujours en train d'exécuter les dessins de Rubens.
Dans cet atelier, combien de personnes travaillaient ?
Je n'ai pas la réponse à cette question. Comme Rubens était peintre de cour des archiducs, il était exempté de l'obligation de registrer tous ses élèves. Alors pour les chercheurs, c'est très ennuyant, mais pour Rubens, c'était très intéressant, car ça voulait dire qu'il ne payait pas les impôts comme les autres artistes. Il avait vraiment une position d'exception dans le paysage artistique anversois. Il pouvait travailler pour tout le monde. Il y avait une très grande population à Anvers qui était fort intéressée dans la peinture. Alors il savait faire des choses pour le marché, des commandes pour des patrons privés, pour les églises, pour des autres souverains européens, catholiques bien évidemment, et des collectionneurs. Il était vraiment très libre à faire ce qu'il voulait faire. Et la génie de Rubens, c'est qu'il savait toujours collaborer avec des autres peintres. Il avait un talent à découvrir du talent et il travaillait avec des gens vraiment dans une façon exceptionnelle. C'était pas comme au 19e siècle le génie isolé qui faisait tout seul. Il savait vraiment trouver d'autres gens à lui aider dans tout ce qu'il faisait.
Nous rendîmes visite au très célèbre et éminent peintre Rubens, que nous trouvâmes à l'œuvre, et tout en poursuivant son travail, se faisait lire Tacite et dictait une lettre. Nous nous taisions par crainte de le déranger, mais lui, nous adressant la parole sans interrompre son travail, et tout en faisant poursuivre la lecture et en continuant à dicter sa lettre, répondait à nos questions, comme pour nous donner la preuve de ses puissantes facultés. Il chargea ensuite un serviteur de nous conduire par son magnifique palais, et de nous faire voir ses antiquités et les statues grecques et romaines qu'il possédait en nombre considérable. Nous vîmes encore une vaste pièce sans fenêtre, mais qui prenait le jour par une large ouverture pratiquée au milieu du plafond. Là se trouvaient réunis un bon nombre de jeunes peintres, occupés chacun d'une œuvre différente dont M. Rubens leur avait fourni un dessin au crayon, rehaussé de couleurs par endroits. Ces tableaux, les jeunes gens devaient les exécuter complètement en peinture, jusqu'à ce que finalement M. Rubens y mit la dernière main par des coups de pinceau et des couleurs.
Alors il y a le grand atelier ici, en dessus là, il y a l'atelier des élèves et il y avait un comptoir séparé où il gardait tous ses dessins. Alors on peut assumer que Rubens, quand il travaillait tout seul, il travaillait peut-être là-dedans et puis ses dessins étaient copiés sur une échelle plus grande par des élèves et lui il retouchait le résultat. Alors il y a vraiment un processus de peindre en place ici.
Est-ce qu'on a des œuvres ici qui montrent justement une gradation dans le travail?
Peut-être celle-là est intéressante, c'est le début pour une peinture d'Henri IV, une série qui était commandée par Marie de Médicis pour le Palais du Luxembourg à Paris. Et on voit ici que la peinture est inachevée et c'est très intéressant pour nous car ça nous donne l'opportunité de voir Rubens au travail. Comment est-ce qu'il fait une composition, comment est-ce qu'il change d'idée. Et au milieu, par exemple, on voit un des soldats qui a trois bras. Alors il y a un qui tient le bouclier et puis de l'autre côté il y a deux bras de droit. Un avec une épée et un autre avec une lance. C'est comme ça qu'on voit que Rubens changeait d'idée pendant qu'il était en train de peindre. Et si le tableau était achevé, on ne verrait plus ce processus de créativité. Il nous donne une fenêtre sur le cerveau de Rubens, comment est-ce qu'il pensait de façon picturale.
Et donc, c'était le maître qui, et ses maîtres assistants, comme Van Dyck ou aussi Jordaens, qui inventait des compositions. Et puis, les esquisses étaient donc envoyées auprès des peintres qui les produisaient en grand. Et Rubens qui venait alors les visiter pour approuver le travail et ou pour corriger, ci et là, des parties dont il n'était pas content du tout. Donc c'était un peu de contrôle de qualité. Donc ce qui est un Rubens, c'est un tableau dont le paiement a été effectué à Rubens. Donc ce n'est pas seulement les petits tableaux ou les tableaux pour les notables les plus en vue, les monarques, qui étaient autographes. Non, non, ça dépendait du prix qu'on voulait payer. Donc quand Marie de Médicis ou Philippe IV d'Espagne ne voulait pas trop dépenser à des peintures, alors voilà, il recevait des tableaux de second rang, d'atelier, avec un peu de retouche du maître.
Une des clés de Rubens, c'est aussi, en quelque sorte, la jeunesse de la tradition de l'art du portrait. Le portrait naît ou renaît en Europe assez tard. Les prémices sont au XIVe, le portrait s'impose au XVe siècle, mais c'est vraiment au XVIe siècle que naît, s'impose, ce que nous appelons aujourd'hui le portrait d'apparat, c'est-à-dire un portrait officiel, c'est-à-dire un portrait de pouvoir. C'est souvent un portrait de grande taille, c'est régulièrement un portrait en habit magnifique qui distingue le personnage représenté du vulgus pecum, de n'importe qui. C'est un portrait qui a un décor plein d'apparat et puis c'est un portrait qui peut être reproduit. Et ça, on l'oublie. Le roi, le prince, l'archiduc doivent être en tous les lieux de façon concomitante où il ne peut être. Il est à Anvers, mais il faut qu'il soit aussi dans les autres villes des Pays-Bas. Et ça, c'est une problématique constante. Donc, comme vous n'avez pas de photographie au XVIIe siècle, Rubens a inventé certainement une clé qui est l'atelier. C'est-à-dire qu'il fait un prototype de sa main qui plaît au prince, mais qui n'est même pas forcément achevé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas forcément achevé? Parce que si le visage du prince est là, il faut que son vêtement puisse être modifié par les assistants, selon les circonstances, selon la mode vestimentaire qui peut changer au fil de quelques années. Et il faut aussi que le contexte architectural ou bien paysager change en fonction du lieu où on va le donner. Et l'idée formidable de Rubens a été de faire ces portraits matriciels non achevés qui peuvent être copiés et adaptés sous forme de variantes par ses assistants, donc démultipliés.
Monsieur, Son Altesse m'a commandé de vous dire de sa part que vous ayez à faire sur nous une ordonnance de paiement pour être donnée à son orfèvre, Robert Stess. 300 florins pour faire une chaîne d'or avec une médaille aux effigies de leurs Altesses, à offrir par Son Altesse en cadeau à un peintre, qui se nomme Pierre-Paul Rubens, habitant d'Anvers, qu'elle fait exécuter par le dit orfèvre. Et sur ce, Dieu vous garde en sa puissance et selon vos désirs.
Ce qui rend Rubens aussi attractif pour les princes, c'est que d'autres princes l'ont déjà employé. Je veux dire que il est désirable d'avoir son portrait par Rubens, parce qu'un prince éventuellement rival a eu son portrait par Rubens. Et Rubens tire parti de cette rivalité entre les princes, d'un certain point de vue.
C'est les souverains qui se retrouvent à être suivistes les uns des autres.
Mais oui, et c'est ça qui est exceptionnel. Et on avait déjà vu ça au siècle précédent avec Titien, puisqu'il y avait quelque chose d'extrêmement désirable pour un prince d'avoir son portrait par Titien. C'était une sorte de consécration aussi. Ça voulait dire qu'on entrait dans le club le plus restreint. Charles Quint avait été peint par Titien, François Ier avait été peint par Titien. Voilà, on est l'élite de le Gotha est peint par Rubens. Évidemment, Rubens a cette chance, et il s'est enjoué très bien aussi, d'être très demandé, vraiment très demandé.
Une des questions les plus fascinantes, je crois, de l'histoire du portrait au XVIIe siècle, et notamment du portrait par Rubens, c'est la circulation de ces images et la rivalité autour de ces images. Il faut comprendre que l'image politique, donc le portrait d'apparat tel qu'il est fait par Rubens, circule, fait l'objet de cadeaux diplomatiques et fait l'objet d'une propagande diplomatique. Donc chacun s'espionne et se contre-espionne, exactement comme dans des entreprises. Il faut avoir le portrait le plus convaincant, mais aussi le plus moderne. Et clairement, le plus moderne et le plus convaincant, ben, à cette époque-là, c'est celui qui est en train d'inventer Rubens. Donc chacun veut avoir une image à la manière de Rubens, chaque prince, chaque princesse veut avoir une image à la manière de Rubens, et puis si possible, pas une image à la manière de Rubens, mais veut avoir Rubens chez soi, d'où les voyages de Rubens entre Italie, Espagne et Angleterre.
En 1621, à la mort de l'archiduc Albert, je suis intimement persuadé que Marie de Médicis, qui a alors à son service Richelieu, Albert étant mort, Marie et Richelieu se sont dit « on va attirer Rubens en France afin qu'il devienne peintre de cour de Marie de Médicis ». Voyant quoi, Rubens a répondu qu'il resterait à Anvers, qu'il ne quitterait pas son cher atelier, mais qu'il acceptait naturellement de servir la reine-mère, qu'il le ferait depuis Anvers. Et l'année suivante, en 1622, Rubens vient signer un contrat avec Marie de Médicis. Et au terme de ce contrat, il s'engage à décorer les deux galeries du Palais du Luxembourg destinées à accueillir 24 tableaux relatant la vie de Marie de Médicis. C'est ce qu'on appelle la Galerie Médicis. Les 24 tableaux sont conservés, grâce à Dieu, ils sont au Louvre. Quant à l'autre galerie, la Galerie Henri IV, elle n'a jamais été terminée et elle subsiste à l'état de fragments.
Qu'est-ce que Marie de Médicis demande à Rubens à travers ces 24 tableaux ?
Eh bien, de la célébrer sans vergogne. L'idée, c'est de la présenter comme souveraine bénéfique, ayant favorisé la prospérité, la paix, ayant formé un couple quasi divin avec Henri IV. Henri IV qui la désigne comme la régente, et en quelque sorte, ça fonde les prétentions au pouvoir de Marie de Médicis. Il est évident que Rubens a beaucoup œuvré à sa gloire. Et le plus bel éloge qu'on peut faire de Rubens, c'est qu'il a transformé une reine mal aimée en grande figure picturale, en héroïne. Et de ce point de vue-là, la réussite a été éblouissante.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les peintres se déplacent. Les peintres sont des voyageurs. Les peintres, parce qu'ils font des images royales, sont depuis fort longtemps, depuis la fin du Moyen-Âge, des proches des rois. Et il est très clair que Rubens a joué pendant une très large partie de sa carrière le rôle, précisément, d'espion. À la cour de France, il est réputé espionner pour le compte de l'archiduchesse Isabelle. Rien moins, ce qui lui a valu l'inimitié très forte de Richelieu, qui n'avait aucune illusion sur les comptes rendus que faisait périodiquement Rubens à celle qui était, au fond, sa reine, et qui était l'état de la France en ce moment, et ce qu'on pourrait y faire ou y espérer. Et quand il va en Espagne, puis en Angleterre, pour des missions diplomatiques, il s'agit en réalité tout simplement d'éviter une nouvelle guerre. Donc ce sont des rôles extrêmement importants. Il est dans le secret des princes, et c'est... Oui, c'est un émissaire des princes et une sorte de ministre plénipotentiaire, plus ou moins caché, et parfois très clairement un espion politique.
Les relations entre les différentes puissances d'Europe étaient extrêmement subtiles, chacun essayant de nuire à son adversaire et de contracter des alliances avec son voisin. Ceux dont l'animosité est la plus forte, c'est clairement l'Espagne et la France, qui sont ennemis jurés. L'un des autres acteurs, c'est l'Angleterre. Chacun essaie d'attirer l'Angleterre dans sa sphère. Et en 1625, Louis XIII avait réussi à marier sa sœur, Henriette Marie, au tout nouveau roi d'Angleterre, Charles Ier. Ce qui ennuyait fort les Espagnols, ce rapprochement franco-anglais n'augurant rien de bon pour eux. Il se trouve que Rubens, via son rôle de peintre, était au mieux avec les Anglais. Donc Rubens, fort de ses alliances anglaises, de ses contacts anglais, est appelé à Madrid. Et donc il part à la fin de l'été 1628 et il arrive à la cour. Vous imaginez un peintre qui défend un dossier diplomatique de cette importance. Et donc cette mission artistico-diplomatique, elle a deux grands pôles, la production de portraits. Rubens va peindre, pour ainsi dire, de manière exhaustive toute la famille royale. Et par ailleurs, il va peaufiner son dossier pour donc établir une paix entre l'Espagne et l'Angleterre, ce qui est chose ardue dans la mesure où les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques et ils n'ont pas même d'ambassadeur. Donc en fait, on l'envoie en mission en Angleterre, quand il part de Madrid, à bride abattue, et le voilà parti. Et il se trouve que Charles Ier est très bien disposé à son égard, parce que Charles Ier est grand amateur de peinture, il est très connaisseur, c'est l'un des grands collectionneurs européens. Et il voit d'un très bon œil ce peintre qui vient lui proposer une alliance et de l'art, où on passe très facilement de la palette à la discussion politique et on retourne à son chevalet dans le même mouvement gracieux. Et il obtient effectivement que Londres envoie un ambassadeur à Madrid et que Londres accepte de recevoir l'ambassadeur d'Espagne. Donc ça fonctionne. Rubens, c'est bien un bon diplomate. Il défend suffisamment bien le dossier pour que les deux pays renouent des relations diplomatiques. C'est le sommet de sa carrière diplomatique, puisque la paix sera signée en 1630 entre les deux nations, et Rubens sera anobli successivement par Charles Ier d'Angleterre et par Philippe IV, qui ne pourra faire moins que de l'anoblir aussi, évidemment.
Cela fait maintenant 3 ans que, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé la paix de l'âme après avoir renoncé à toute espèce de charge extérieure à la profession que j'aime. Experti sumus in vicem fortuna et ego. La fortune et moi avons fait l'expérience l'un de l'autre, écrit Tacite. J'ai une grande obligation envers la fortune, car je peux dire sans vanité que mes tâches et mes voyages en Espagne et en Angleterre m'ont felicissime réussi. Les affaires les plus graves ont eu une issue heureuse, à la plus grande satisfaction de ceux qui m'employaient et de l'autre partie. J'ai pris donc la résolution de me faire violence et de trancher ce nœud d'or de l'ambition pour recouvrer ma liberté. Maintenant, je me trouve par la grâce divine en repos avec ma femme et mes enfants, et sans autre prétention au monde que de vivre en paix. D'Anvers, 1634.
Ce portrait qui provient des collections de la reine d'Angleterre, il s'agit d'un autoportrait où Rubens se représente à mi-corps, dans un manteau noir, chapeau en tête. Contrairement à certains de ses collègues, Rubens est assez chiche en autoportrait. Autant Rembrandt ne cesse pas de se peindre, autant Rubens est plus économe dans les autoportraits. Et Rembrandt se représente volontiers les palettes à la main, Rubens jamais. Jamais, il ne se représente jamais comme peintre. Que nous dit un tableau comme celui-ci? Eh bien, il nous dit que Rubens a atteint un degré de consécration sociale qui fait de lui le paradigme même du peintre gentilhomme. Il est donc vêtu de noir et de blanc, ce qui est conforme à la tenue de cour de sa patrie. Il porte par ailleurs autour du cou une chaîne. C'est la servitude dorée du peintre de cour. Les princes avaient pour habitude de récompenser leur peintre en leur remettant une chaîne d'or, qui manifestaient leur attachement au sens le plus littéral. Et ce tableau est destiné à Charles Ier d'Angleterre, au futur Charles Ier d'Angleterre, qui était prince de Galles, et qui a demandé à Rubens de lui envoyer son autoportrait. Et Rubens a prétendu qu'il avait été dans l'embarras que lui, personnage d'un statut aussi mineur, fasse l'objet d'une telle demande d'un aussi grand prince européen. Et ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est de voir que Rubens se projette dans l'élite de la société. Il est l'incarnation la plus aboutie du peintre docte, savant, fréquentant les savants, reconnu comme tel par les savants. Et il est le peintre gentilhomme le plus parfait, anobli deux fois, ayant blason, vivant d'une manière seigneuriale dans un quasi-palais urbain, ayant à la fin de sa vie une seigneurie, la seigneurie de Steyn, qui est une sorte de domaine campagnard dans lequel il vivra en grand seigneur, en peignant des paysages en sage néo-stoïcien retiré du monde. Enfin voilà, il y a toutes ces composantes qui font que Rubens, c'est un personnage absolument fascinant, inépuisable.
C'était Rubens, peintre des princes, prince des peintres. Avec Alexis Merle-Dubourg, historien de l'art, Nadège Lanéry-Dagen, professeur d'histoire de l'art à l'École normale supérieure de Paris, Nico Van Hout, conservateur du département des peintures du XVIIe siècle au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, et Bert Vatheu, historien et chef de projet au Musée de la Maison Rubens à Anvers. Merci à Dominique Jacot, commissaire de l'exposition Rubens Portrait princier, au Musée du Luxembourg à Paris,
et au Rubenianum, centre d'études sur Rubens à Anvers. Avec les voix de Yann Amenecker et Sylvain Clément. Prise de son, Jean-André Giannichini. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire d'Élise Gruot, réalisé par Julie Béressy.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez devenir peintre de cour, bibliographie, liens, mais aussi nos podcasts pour les courtisans ou nous réécouter au château, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, dernier épisode, la commande d'État après-guerre.